que ce soit quelqu'un depuis 6 mois ou quelqu'un depuis 70 ans. Vous connaissez toute la Bible. Du coup, je vais prendre quelques raccourcis et je vais éviter un peu la mise en contexte parce qu'il faut dire que Connect Grenoble, on attache beaucoup d'importance aussi à expliciter les messages de telle façon à ce que des gens qui viennent ici pour la première fois captent tout. Et ça d'ailleurs, merci Seigneur, il nous envoie constamment des incroyants. Et c'est un gros défi qu'on a en tant qu'Église, ben, c'est comment est-ce qu'on prend des gens incroyants et on les amène à grandir avec Jésus, n'est-ce pas ? Et moi, je suis touché, il y a un gars actuellement qui s'appelle Aurel, il est venu ici, il y a 2 mois ici. Je profite, il n'est pas là aujourd'hui, donc je me permets d'en parler. Et c'est touchant, il est venu ici, et c'est un monsieur qui avait le crâne complètement rasé avec un aigle ici. C'est prophétique, il va s'envoler. Et un aigle ici, alors qu'on était dans la présence de Dieu, alors qu'on était là, et moi, je voyais le monsieur, on continuait de louer le Seigneur, etc. Et pendant message, je ne sais pas pourquoi, je me vois parler dire quelque chose et je dis un mot, c'est Dieu, Jésus veut te libérer des addictions. Et lui, la seule chose qu'il a retenue de tout le message, c'est les addictions. Dieu veut me libérer des addictions. Et à la fin de la réunion, il vient me voir et tout, et il était un peu titubant parce qu'il a un problème. Et aujourd'hui, il est en cure de désintoxication. Il a un grave problème au niveau de l'alcoolisme et Dieu est en train de le relever. Et ce qui était touchant, c'est de voir à quel point, sans façade, il vient à la fin de la réunion et me dit, et un peu titubant, il me dit, ça fait depuis 22 ans que je suis dans l'alcool. Waouh ! Et sa femme, il est marié, et sa femme l'a dit, je l'ai toujours connu comme ça, et je l'aime tel qu'il est. Je dis, mais c'est extraordinaire. Et elle dit, je l'ai connu. En fait, c'était une histoire, ils s'étaient connus quand ils étaient enfants. Chacun avait fait leur mariage, c'est l'histoire de 2 divorces. Et ensemble, ils se sont mis à nouveau, ça fait depuis plus de 5 ans, 6 ans qu'ils sont là. Et ce monsieur vient vers moi et il me dit, t'as parlé des addictions. Et comme ça, cache-pistache. Il me dit, mais j'en ai plein des addictions, moi. Je dis, Jésus va te libérer. Et aujourd'hui, il a fait la démarche de partir pour se faire sevrer. Combien croient que Dieu peut aussi guérir instantanément les gens, mais parfois il faut se servir de la médecine. Et du coup, il est là-bas et il m'a dit, est-ce que tu peux dire à l'église de prier pour moi ? Et juste, Seigneur, on te prie maintenant que partout les gens que tu nous envoies, que des milliers d'orels viennent ici et qu'on soit cette famille de Dieu qui accueille ceux qui ne connaissent pas Jésus et ceux qui ont besoin de te rencontrer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Du coup, ce matin, je vais faire quelques raccourcis et parce que tout le monde, je vois des gens ici, vous êtes tous des érudits, je le crois, dans la vie chrétienne et dans la lecture de la parole de Dieu. Mais quand même, je vais mettre quelques petites clés de contexte et juste on va se replonger ensemble dans les textes de la parole de Dieu. Exode 12, verset 5. Vous vous rappelez l'histoire de la Pâque ? Ouais ? On se le relit ensemble. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera 7 agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et on badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On retirera la viande. On mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Et au verset 11, Dieu dit, ce sera la Pâque. On célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né. Il y avait un fléau, un jugement de Dieu qui venait sur cette nation. Il dit, j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur vos maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que partout aujourd'hui, parmi le peuple d'Israël, si tu mets la prochaine diapo, il y a le repas, ce qu'on appelle un seder. C'est le repas avec plein de symboliques. Moi, j'ai déjà mangé un repas de Pâques avec des Juifs. J'en pleurais. Ils m'expliquaient, ça, c'est ça. Et ils font... En fait, quand Dieu a donné ce repas-là, c'est un repas avec plein de symboles. Et les parents enseignent à leurs enfants qu'est-ce que ça signifie. Et c'est les enfants qui doivent retourner vers les parents à chaque fois. C'est comme ils font même des pauses, ils lisent des passages de la Torah et les enfants disent « Pourquoi papa ? Pourquoi maman ?» Et bien ça, c'est à cause de l'Éternel, il a fait ça. Nous étions ça, c'est les premiers. Et il y a cette espèce de transmission du message de génération en génération « Voici ce que Dieu a fait pour nous. Waouh! Et puis moi, j'étais à table avec ce qu'on appelle des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui reconnaissent Jésus comme le Messie, le Machia, mais qui célébraient et fêtaient la Pâque. Et moi, je veux dire, je suis né en France, né à Grenoble, vivant à Paris, à ce moment-là, la Pâque, tous les symboles, je pipe rien, je connaissais rien à ce monde-là. Mais de voir quelle profondeur. Pour moi, c'était comme si tu découvrais, tu sais, des fois, tu découvres des choses de la Bible que tu n'avais jamais vues. Et c'était littéralement ça. Et c'était pas après pas. Et à un moment donné, en fait, il prend l'agneau, il prend des os de l'agneau, et ils font ça, les Juifs. Et ils le prennent et ils le mettent sous la table et on va le cacher. Il est comme enseveli. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas, c'est une tradition qui est héritée. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Il dit, c'est l'agneau, il est caché, il est enseveli. Et ensuite, les enfants sortent les os de l'agneau et on fait la fête. Il a été retrouvé. Les Juifs font ça aujourd'hui dans leur Pâque, dans leur, ce qu'on appelle Pessah. Et littéralement, la Pâque, Pessah, ça veut dire passer au-dessus. C'est-à-dire que, suivez-moi, Jésus a vu tes péchés, tes fautes. Et au travers du Dieu a vu tes fautes, tes péchés. Et au travers du sang de Jésus, il passe au-dessus. Une fois, on était en train de faire un barbecue et je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait je me sens pas bien, je me sens pas top, je me sens pas digne. Et on était là assemblé avec plusieurs personnes et je pouvais tellement comprendre ce qu'il me partageait parce que des fois on a ce sentiment d'indignité, n'est-ce pas? Et alors que je partage ça à ma femme, je dis, mais tu te rends compte, des fois, c'est vrai, on n'est pas digne, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Et ma femme regarde et elle me dit, mais on a Jésus. Mais attends, heureusement qu'on n'est pas digne, mais on a Jésus. Et je ne sais pas pour vous, mais combien de personnes ici, vous ne vous sentez pas digne? Il y a constamment une espèce d'accusation, t'es pas digne, t'es pas ceci, t'es pas cela. Est-ce qu'il n'y a que moi que ça se passe ou des fois ça vous arrive? Ouais, c'est bon. Donc, il y a un moment donné, c'est un professeur d'école biblique qui dit, à un moment donné, quand vous vous faites accuser par le diable, il y a un moment donné, mettez-vous d'accord avec lui. Et ça nous avait choqués. Il a dit, dites-lui, oui, je suis injuste, oui, je suis pécheur. Mais ça, c'était avant la croix. Et la beauté de la croix, les amis, c'est que c'est ce passage, c'est le sang de l'agneau qui nous couvre et Dieu passe au-dessus de tes fautes. Ok, on continue. Et Dieu avait ce plan-là. Et donc, c'est comme un organisateur d'un film. Il avait un plan, il avait la bande-annonce, il avait donné des prophéties. Et dans cette bande-annonce, il y avait Pessah, la Pâque, on fêtait la venue de Jésus. Il y avait des prophéties, il y avait un repas. Tout annonçait la venue de Jésus. Et il y arrive où Jésus vient, si je peux dire, à la sortie du film, l'agneau de Dieu vient, Luc verset 22, on avance, 22-14. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. Les amis, je fais une pause. Alors je sais que beaucoup peut-être l'avaient réalisé, mais moi je n'avais pas complètement réalisé ça. Quand Jésus a fêté la Pâque avec ses disciples, En fait, c'est comme si j'avais pas saisi que le dernier repas, c'était la Pâque. Qui l'avait saisi? Oh, qui l'avait pas saisi? Merci. En fait, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, c'était justement cette Pâque. Moi, j'avais toujours pensé, tu sais, Jésus, les derniers disciples, Jésus leur lave les pieds. Je vous ai aimé, voilà. Mais non, c'était la Pâque. Vous êtes là? Et du coup, durant toute la Pâque, Jésus devait être quand même assez... Il y avait un effet miroir. On parle du sang, c'est moi qui suis brisé. Est-ce que vous êtes là? C'est moi qui vais donner mon sang. Et Jésus dira, et pour dire, parce qu'il y a parfois des gens qui disent, ouais, mais bon, c'était pas prévu qu'il meure, mais c'est Jésus lui-même qui dira, personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. Donc Jésus avait prévu de mourir, de souffrir. Jésus prit du pain et après avoir prononcé ses prières de reconnaissance, il le partagea en morceaux, il le donna à ses disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit la coupe et après avoir remercié Dieu, il leur dit « Buvez-en tous, ceci c'est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, ça c'était vous, c'était moi, afin que leurs péchés soient pardonnés ». Et là, les disciples, ils disaient « On va te préparer le repas de la Pâque ». Et Jésus dira « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Du coup, Jésus mange ce repas, ce qu'on appelle le repas pascal. Il va être jugé, Nico le disait tout à l'heure, il va être jugé. Il va mourir le lendemain. Donc, on est, si tu mets la prochaine chronologie, je vais suivre la chronologie. Donc, le vendredi, c'est important juste qu'on se remette dans la chronologie. Le vendredi, c'est la Pâque. D'accord ? Jésus fête la Pâque avec ses disciples, mais on est d'accord que partout en Israël, à ce moment-là, il faisait la Pâque. Vrai ? Et du coup, le samedi matin, il est jugé, il est crucifié, il est mis au tombeau. Et le dimanche matin, c'est Pâque. On célèbre la résurrection. Dimanche matin, excusez-moi, c'est le dimanche des rameaux, ce qu'on dit. Et là, on célèbre la résurrection. Ok, on avance. On revient un petit peu sur la chronologie juste en dessous. Si je devais donner un titre à cette pensée, c'est « Quand on pense que la mort a le dernier mot ». Un homme, prochaine diapo, un homme appelé Joseph, un des membres du Conseil supérieur des Juifs, intervint alors. C'est un homme bon et droit. Il n'était pas d'accord avec la politique de ses collègues. Il ne s'était pas associé à leurs décisions. Il était originaire d'Arimathée, une ville de Judée, et il faisait partie de ceux qui vivaient dans l'espérance du royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate, le gouverneur romain, et lui demanda le corps de Jésus. Donc là, c'est juste après la crucifixion, Jésus est mort. Et après l'avoir détaché de la croix, il l'enveloppa dans un drap. Il le déposa dans un tombeau taillé dans un rocher où personne n'avait été encore enseveli. C'était le vendredi, avant le début du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent, c'est comme si elles étaient un peu à distance, elles regardaient le tombeau et notèrent comment le corps de Jésus avait été déposé. Ensuite, elles retournèrent chez elles et elles préparèrent des huiles et des parfums pour embaumer le mort. Puis, elles passèrent le jour du sabbat dans le silence et le repos comme la loi le prescrit. Je regardais ce texte, je me replongeais dans le texte de la résurrection et du coup, il y a deux vignettes que j'aimerais vous partager. Il y a toute cette espèce de fête juive où on fête la sortie d'Israël, on fête le fait qu'il y a un agneau qui a été sacrifié pour nous. Et ils parlaient de Jésus, mais ils ne le comprenaient pas. D'accord ? Et juste après la crucifixion de Jésus, il y a les gens qui ont suivi Jésus. Il y a des gens qui ont cru en Jésus. Il y a des gens qui ont aimé Jésus. Et ces gens-là se trouvent complètement désemparés. Il y a un mélange de fête et de deuil pour ces femmes. Tout Israël est en liesse. On célèbre la sortie d'Égypte. Mais combien comprennent et sont d'accord avec moi pour dire qu'eux, ils n'avaient pas du tout le cœur à la fête ? C'était dur. On pensait que Dieu allait nous libérer du joug de l'oppresseur. Il y a toute cette désillusion qui est interne. Ces femmes pleurent la mort de Jésus. Et à cause de la loi juive, c'est un décret, c'est un couvre-feu. Les commerces ferment, tu ne peux pas prendre ta voiture, tu ne peux pas sortir. Tout le monde rentrait chez vous. Et elles restent chez eux. Et probablement, ça devait être le pire Shabbat qu'elles ont vécu et peut-être la pire Pâque de toute leur vie parce qu'elles ne comprenaient pas ce qui arrivait. Du coup, j'aimerais que vous veniez avec moi prendre un café ce matin et on va parler aux disciples et on va parler à ces femmes. Venez, whoop. Parce que j'ai pris un café avec eux, j'aimerais vous partager ce qu'ils ont ressenti. Allons ensemble, les amis, dans leur case et dans leur maison pour discuter un peu. Et perso, je l'ai fait, j'ai discuté avec plusieurs des disciples de Jésus, plusieurs de ces femmes-là. Et en fait, ce qui ressort, pour leur avoir discuté à chacun, ce qui ressort, c'est qu'il y a une incompréhension générale dans tout ce qui s'est produit. Et puis, il y a quelqu'un qui me disait « Tout est allé très, très vite ». J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et en fait, chacun vivait un peu leur truc dans leur coin. Ils n'osent pas trop s'en parler entre eux. C'est un peu compliqué, difficile. Et il y a beaucoup de culpabilité. Pour Pierre, d'ailleurs. je discute avec Pierre, il s'en veut énormément. Il y a beaucoup de honte. D'une façon générale, tout le monde, ils ont de la honte parce qu'ils ont renié Jésus. Ils sont tous partis comme une volée de mésanges au moment où on a arrêté Jésus. Du coup, il y a de la honte, ils se sont enfuis. Il y a ce sentiment d'échec, de solitude quand tout le monde fait la fête et eux, ils pleurent un ami. Et je m'identifie pleinement à ce qu'ils vivent parce que nous traversons tous, les amis, des moments où on est complètement perdu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des moments où t'aimes Dieu, mais tu comprends plus rien ? Tu dis là, je comprends plus rien. Je ne comprends absolument nothing. Il y a plus de sens à l'histoire. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ? J'ai déployé mon cœur pour Dieu, j'ai déployé mon amour, mon zèle. Je marche avec toi, je vais à l'église, je donne mon argent à l'église, je donne mon temps. Est-ce que vous êtes là ? Mais là, je ne comprends plus rien. Et c'est exactement ça. Et puis, en plus, j'y ai cru. Ces gens-là disaient, j'ai vraiment cru en Jésus. J'ai cru que c'était lui le Messie. Il était venu pour nous sauver. Mince, j'y ai cru. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Pour cette fin-là. Quelle désillusion. Puis j'étais à côté de ses disciples et je les voyais pleurer. On croyait que c'était lui le Messie. Il pleurait vraiment un deuil terrible. Il y a des choses qui sont survenues, qui sont incompréhensibles. On pensait que c'était lui. Prochaine diapo. Vous êtes avec moi là, c'est bon ? On a pris le café avec les disciples. Vous êtes là, vous êtes assis à côté d'eux. Ok, allons un peu plus loin. Diapo 2. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu n'a pas changé son plan, même si tu ne le vois plus. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, apportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée à quelque distance de leur verrure. Déjà, faites une pause avec moi. Là, c'est le choc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir une scène de vos yeux et de ne pas y croire, ou ton cerveau n'arrive pas à l'analyser ? J'arrive pas à... Qu'est-ce qu'il y a ? Elles vont voir Jésus pensant... Et d'ailleurs, ce qui est troublant dans l'histoire, c'est qu'en chemin, elle dit « Qui est-ce qui va nous dérouler la pierre ?» Tu vois, elle ne savait même pas. Et il y a un choc, elle voit la pierre, le tombeau, la pierre déroulée. Et elle rentre dans le sépulcre, elle ne trouve pas le corps de Jésus. Elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait. Et deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent devant elle. En les voyant tout effrayés, la tête basse, ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous annonçait quand il était encore Galilée. Ne disait-il pas ceci ? Il faut que le Fils de l'homme soit livré dans les mains d'hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Waouh ! Quand la douleur frappe, les amis, quand il y a de l'incompréhension. Moi, je pleurais quand je lisais ça. Parce que je vivais chaque... Je lisais tout le texte. Et c'est comme si à chaque fois, je faisais une pause. Et je me mettais à leur place. Je m'identifiais à eux. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils ont dû penser ? Comment ? Et c'est comme si, il y a un moment donné, parce qu'on est complètement à l'envers, on a le cœur dans une machine à laver, dans des montagnes russes. Il y a tout ça qui s'est produit, on ne voit plus le plan de Dieu à cause de la douleur qu'on traverse. Et on ne reconnaît même plus sa voix quand il nous parle. Parce qu'on est tellement pris dans des émotions, on a tellement mal qu'on est complètement perdu. Il y a un choc et le message des anges, c'était « Mais rappelez-vous, il vous l'avait dit. Il vous l'avait dit. » Et ce qui est troublant ici, c'est que quand tu lis le texte, il n'y a pas un disciple qui a dit « Hey les gars, mais Jésus nous l'avait dit. » Il n'y a personne qui a eu le réflexe de dire « Mais c'est normal. » Donc, j'ai une grande nouvelle à vous donner, c'est que la mort de Jésus, ils y ont cru. C'était vrai. Il est mort de chez mort. C'est fini. Ben oui, quand il est mort, c'est que c'est mort. Hey, quand c'est mort, frère, c'est mort. Non, mais tu sais, les jeunes ont une expression, mon fils maintenant, il me dit « Papa, c'est mort ». Tu sais, les jeunes, quand c'est mort, tu n'y crois plus, c'est fini. Là, il est enterré. Ça fait 3 jours. On ne peut pas revenir de la mort. Maintenant, ce qui est beau, c'est qu'il est ressuscité. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Et maintenant, ce qui se passe, prochaine diapo, du coup, il y a 2 phénomènes qui se produisent en nous quand on traverse des moments chaotiques et de douleur. La première, c'est qu'on perd complètement le focus de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne reconnaît plus sa voix. Prochaine diapo. En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui était là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Elle lui demande, pourquoi ? Et Jésus qui lui dit, pourquoi est-ce que tu pleures ? Tu te moques de moi ? Qui cherches-tu ? Et Marie croyait que c'était le jardinier. Alors elle lui dit, si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-le-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Et Jésus lui dit, Marie. Là, elle reconnaît. Là, il a appelé mon nom. Là, elle voit que c'est Jésus. Elle dit, Rabboni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais maintenant, va trouver mes frères et mes sœurs et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala a annoncé, elle court annoncer ça aux disciples et leur dit, j'ai vu le Seigneur. Il m'a raconté tout ce que je vous avais dit. D'ailleurs, si vous continuez à lire le texte, quand elle dit ça, les disciples, ceux qui aiment le Seigneur, ils ont dit, t'es qu'une folle. T'imagines ? Et d'ailleurs, et à tous ceux qui disent oui, mais le patriarcat, machin, ceci, cela, Jésus, la première nouvelle qui allait bouleverser le monde a été confiée à des femmes. Je m'attendais à un amen féminin. Elle arrive, ils étaient tellement dans le deuil, wouhou ! Elle frappe à la porte, ça y est, je l'ai vu, il est ressuscité, t'es qu'une folle. Quel encouragement spirituel. Ils l'ont pris, mais elles ont. Et du coup, parce que Jésus a voulu montrer qu'il était vivant, il a apparu à ses disciples. Je suis sûr qu'à un moment donné, il a dû leur dire, ce ne sont pas des folles, allez vous excuser. Vous êtes là ? Et à l'image de Marie, il y a beaucoup de gens qui pleurent, il y a beaucoup de personnes qui sont comme elle. Je pleure ce que j'aurais voulu que ce soit vrai. Je pleure parce que j'ai fait le deuil d'un espoir évanoui. Je pleure parce qu'il n'y avait plus aucune raison d'y croire. On nous avait dit, et je croyais que c'était lui, le chemin, la vérité, la vie. Et quand Jésus vient, il dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu ? Les gens parfois ont soif de spiritualité, mais souvent on cherche au mauvais endroit. En fait, quand Jésus vient, il lui dit, c'est quoi que tu cherches ? Il lui dit, c'est comme si la religion va t'amener à chercher la vie dans une tombe vide. C'est pas là. Je suis ressuscité. Je suis dans le ciel. Et les amis, je vais même plus loin. Ne cherchez pas votre bonheur dans une église. Ok, je vais le redire. Ne cherchez pas votre bonheur dans une église. Des gens sont imparfaits. Moi, je suis imparfait. La musique est imparfaite. Est-ce que vous êtes là avec moi ? Jésus veut changer. C'est lui sur lequel vous devez mettre vos attentes. Quoi que tu recherches, Jésus, il est derrière. J'avance. La mort n'est pas la fin de l'histoire. La mort n'est pas la fin de l'histoire. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand on est face à la mort qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de spiritualité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que quand tu vas à l'hôpital, à l'étage en soins palliatifs, juste à l'article de la mort, les gens deviennent tous très spirituels et ouverts à la religion. Une fois, j'étais dans un avion, je revenais du Canada, et j'étais un jeune pasteur à l'époque. Et je me rappelle, il y avait un gars qui s'appelait Serge, il était à côté de moi, et à un moment donné, au-dessus de l'Atlantique, on a eu ce qu'on appelle des trous d'air. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Tu es dans l'avion et vraiment, tu flippes. Tu as un trou d'air, tu as l'impression que l'avion va se crasher. Et là, tout le monde se mettait à crier. Et vraiment, moi, je me suis mis à prier à ce moment-là. Je dis, Seigneur, je suis encore célibataire. J'espérais un jour peut-être me marier. Mais si c'est là la fin, Seigneur, je viens vers toi. Et le gars à côté de moi, qui n'était pas chrétien, il me pose la question. Juste avant le trou d'air, le gars, il me pose la question. Il me dit, salut, moi, je m'appelle Serge. Puis on discute un petit peu. Il me dit, vous faites quoi dans la vie ? Je dis, je suis pasteur. Et il me dit, j'ai noté cette histoire. Il me dit, Dieu doit avoir beaucoup de boulot alors. Je dis, pourquoi vous me dites ça ? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Je dis, ah bon ? D'accord. Est-ce que vous pensez que vous faites partie de ce problème ? Il m'a dit pas du tout. Ben, je dis, ben voilà, il est là le problème. Et au-dessus de toutes les turbulences au-dessus de l'Atlantique, et il y a un moment donné, je le voyais comme ça, vraiment, et je me rappelle, il y avait des jeunes filles adolescentes qui étaient là, qui commençaient à crier, à pleurer, genre on est en mode stress, quoi, tu vois. Et on peut être en mode pas stress, mais en mode quand même, peut-être qu'on va y passer. Et tu vois, le Serge, il commence vraiment à perler la grosse goutte, et il s'accroche à son siège, et je lui mets la main, je lui dis, ne vous inquiétez pas. Je suis pasteur, je crois en Dieu, je suis un homme de Dieu. Je vais prêcher, j'ai une conférence à faire à Rouen et je dois m'y rendre. Et parce que je dois m'y rendre, vous allez venir et vous allez survivre. Il se regardait, il me regardait à côté. Tu sentais qu'il voulait y croire. Ne vous inquiétez pas. Et je lui dis, Dieu protège toujours ses enfants et vous allez venir avec moi en vie. Et à la fin, du coup, l'avion atterrit et puis on ouvre les bagages, on sort. Et quand il sort la valise, il me regarde. Et il me fait, pas cette fois-ci. Hein. Genre, je ne vais pas mourir cette fois-ci. Et je lui réponds, Serge, vous savez quoi ? Si l'avion se crache, moi, je sais où je vais. Par contre, vous, vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous allez terminer. Faites attention pour votre prochain vol. Les amis, c'est Paul qui dit ceci. Prochaine diapo, je vous ai donné toutes ces choses. L'enseignement que j'ai reçu moi-même, le Christ est mort pour nos péchés. Comme le livre saint l'avait annoncé, on l'a mis au tombeau. Et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort. Oh. Et, t'as pas fait gaffe ? Dieu, il n'est même pas dit Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a réveillé de la mort. Tu sais, genre, t'étais endormi. Lève-toi. Dieu l'a réveillé d'entre les morts. C'est tellement beau. Christ est mort pour nos péchés. On l'a mis au tombeau et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 et frères, sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants. Quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Finalement, après les autres, il s'est montré à moi aussi, à moi qui le méritais moins. Waouh ! Vous connaissez tous l'apôtre Paul. Est-ce que Paul a vu Jésus de son vivant ? Non ? Ah bon ? De son vivant ? Quel livre tu lis, toi ? Non, c'est vrai. Du coup, Paul, on est d'accord, n'a pas vu Jésus de son vivant. Paul était un persécuteur de chrétiens. OK ? Mais, t'as pas complètement tort, parce qu'il a pas vu Jésus physiquement, mais en tout cas, il a une révélation, il a une vision de Jésus, avec une voix où Jésus lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Vrai ? Et ensuite, il est, rappelez-vous l'histoire, il est tombé aveugle. Il y a un disciple qui est venu, qui s'appelait Gamaliel, qui a prié pour lui, il a retrouvé la vue. Et à ce moment-là, Paul est devenu un chrétien. Mais voilà où je veux venir. Paul, c'était un génie intellectuel. Il persécutait les chrétiens, être sûr qu'il faisait quelque chose de bien. Et en fait, il a eu, dans sa vie, il a eu toute son expérience de sa foi repose sur deux choses. La première, c'est qu'il a eu une expérience personnelle avec Jésus, comme chacun d'entre vous, vous l'avez eu. Et la deuxième, c'est qu'il a eu le témoignage d'autres croyants. Et Paul fait partie de cette deuxième génération de disciples qui vont évangéliser le monde entier avec comme croyance, comme base doctrinale et de foi que Jésus est mort, mais il est ressuscité. On ne prie pas un Dieu qui est mort, on prie un Dieu qui est vivant. Il s'est réveillé, relevé, ressuscité d'entre les morts. Et ce qui est touchant, c'est même comme l'histoire du fils prodigue. Peut-être que vous n'aviez pas étudié ça, mais quand tu lis l'histoire du fils prodigue, je m'y suis attardé un petit peu et je l'ai découvert que récemment. Mais en fait, quand le père parle du fils prodigue, il dit qu'il était perdu et il a été retrouvé. Mais littéralement, le mot perdu, c'est comme il était mort et il est revenu à la vie. Et en fait, mon point est celui-ci, c'est que parfois la résurrection peut être une expérience qu'on fait de notre vivant. On peut se relever, se réveiller, s'éveiller, changer de regard dans tout ce qui se passe et saisir l'amour de Dieu. Et j'aimerais dire, c'est ma prière ce matin, qu'il y ait un wake-up, qu'il y ait un réveil dans ta vie personnelle, que tu viennes à la vie sur des choses et des endroits qui sont morts en toi. Parce que Jésus, quand il vient et quand il donne la vie, il réveille ce qui est en toi, ce qui est mort. Et je le prie qu'il y ait des choses qui sont ensevelies, des rêves qui sont morts, des choses où tu as dit c'est mort, tu as mis une tombe, tu as mis une pierre dessus, que Jésus vienne et ressuscite ces choses-là. La résurrection peut être cette expérience, alors qu'on suit Jésus, elle est faite de notre vivant. Et je termine avec ceci. La résurrection de Jésus, elle a eu plusieurs réactions. Il y a au moins 3-4 réactions parmi les gens. Quand ce fait historique a été proclamé vis-à-vis même des disciples de Jésus, il y a, je dirais, même les nostalgiques, les respectueux de la religion, notamment, je pense à Marie. Tu sais, Marie, d'ailleurs, j'aime cette délicatesse féminine de vouloir... tu sais, les gars, ils sont tous perdus dans leur case, en train de faire leur deuil. Mais les femmes, là, ont décidé de faire des arômes et elles disent, mais on n'a pas bien traité le corps de Jésus et puis nous, on va mettre des huiles, on va le parfumer. C'était un moment peut-être pour elles de faire leur deuil. Ça fait partie de mon deuil. Et je veux terminer et bien clôturer cette histoire. Oui, il est mort, mais quand même, on va lui donner les soins qu'on n'a pas eu le temps de faire à cause du Shabbat, parce que la loi... Et il y a tout ce côté un petit peu nostalgique. Parfois, on est un peu nostalgique de la foi, nostalgique du temps passé avec Jésus. Et puis, il y a aussi les sceptiques. Je pense à Thomas. Qui est-ce qui doute dans la vie? Qui est-ce qui est plutôt cartésien? Moi, tu sais, j'ai besoin de comprendre. Ben, ça, c'est Thomas. À tous les saints Thomas de cette église, soyez bénis. Thomas, on vient. Thomas, les folles nous ont dit que Jésus était vivant. Il a dit, c'est bien des folles. Enfin, vous comprenez? Foutez-moi la paix. Thomas, c'est vrai. On est allé au tombeau, il est vivant. Jésus est vivant. Je ne vous crois pas. Thomas, foutez-moi la paix. Et lui aussi, c'était un gars... Je ne sais pas ce qu'il a vécu dans son enfance. Peut-être qu'on lui a fait beaucoup de farces, beaucoup de... Lui, à moins qu'il voit, il ne croit pas. Il a besoin de comprendre. Jésus, vous connaissez le texte, Jésus apparaît parmi les disciples. Et la première parole qu'il dit, il dit « Thomas, il est où ?» Puis là, tu as les gars, « il est là-bas, Thomas, Thomas !» Puis tu sais, il se pousse et tu es là. Et Jésus vient, il dit « Thomas, viens là !» Viens, il dit « Pose !» Parce qu'en fait, Thomas, quand on lui avait dit « Thomas, Jésus existe, c'est vrai, il est vivant », Thomas, il a dit « Non, 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 non ». Il dit « Je croirai, vous vous rappelez ? Je le croirai que quand il sera devant moi. » Et alors, pour dire, il était vraiment très, très cartésien, « Je mettrai mes doigts dans ses plaies, mes doigts. » Et quand Jésus vient, il dit « Viens, Thomas, viens. Mets tes doigts dans mes plaies, mets tes doigts dans mon côté. » Et là, Thomas, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Waouh ! Tous les sceptiques qui ont besoin de preuves scientifiques ont été rencontrés par Jésus. Il a été vu par des centaines de personnes. Et Paul, il dit, il y en a encore qui sont vivants aujourd'hui. Il y en a, alors en ce moment, c'est très à la mode. Oui, mais c'était peut-être un complot par rapport à la résurrection. Vous savez, le complot, les complotistes. Mais si ça avait été un complot, il aurait été aperçu seulement par une élite. Mais là, ça a été à des centaines de personnes. Des gens qui, au nom de leur foi, au nom de cette foi et au nom de cette croyance que Jésus est ressuscité, sont morts, jetés dans des arènes, à se faire bouffer, eux et leur famille, par des lions. Combien de personnes sont prêtes à mourir pour un mensonge? Et puis il y a aussi les disciples d'Emmaüs, vous rappelez? Les disciples d'Emmaüs, à quelques kilomètres de là, en fait, Jésus est apparu à plusieurs personnes et il y avait ses disciples qui marchaient en chemin. Et eux, en fait, ce sont les déçus de l'évangile. Plusieurs sphères. Des gens qui auront voulu cru, des gens qui auront cru, puis qui ne comprennent pas. C'est les sceptiques, et puis ils étaient en chemin. Et en fait, ce qui me touche dans ce texte, c'est que Jésus vient les rencontrer, et il marche avec eux, et ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus leur explique dans les Écritures, Jésus leur explique tous les textes qui leur parlaient de lui. Et ensuite, il disparut de leurs yeux et disent « Mais nos cœurs étaient brûlants parce qu'on avait besoin de comprendre. » Jésus prend le temps, la patience de nous expliquer quand on n'a rien capté. Waouh, Jésus. Et je suis touché par ces gens qui n'arrivent pas à comprendre. Et peut-être, et je prie pour ce matin, et c'est cette dernière catégorie, il y a des gens qui disent, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne rentre pas dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, je suis incapable de dire, souvent alors qu'on parle de la résurrection, il y a des gens qui disent, il y a comme un blocage en moi. On parle de la résurrection, j'ai du mal à comprendre, il est ressuscité, et c'est tellement abstrait pour moi. Il y a beaucoup parfois de peur, d'incompréhension, il y a beaucoup aussi de, ben, je ne comprends pas si... Je ne comprends pas Dieu, puis s'il y avait un Dieu, il n'y avait pas tant de misère, puis j'ai la peur de la mort, du sang, et tout ça soulève la question aussi parfois à d'autres personnes. Mais t'imagines, s'il est réellement vivant, ça veut dire que je dois changer de vie, je dois arrêter tout ce que je suis en train de faire. Ça, c'est plutôt pour des incroyants, mais en tout cas, valait mieux que cette pierre de cette tombe reste fermée, et on ne se serait pas posé la question, m'a dit un jour quelqu'un. Valait mieux que ce soit fermé, puis on ne se serait pas posé toutes ces questions. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, pourquoi la pierre fut roulée ? Pourquoi la pierre a été roulée alors que le tombeau était vide ? Pour que vous puissiez y rentrer. Et que tu puisses rentrer dans le tombeau et de voir qu'il n'est plus là. De voir qu'il est ressuscité. De voir qu'il est au siège, il siège à la droite de Dieu. Alléluia ! Il est ressuscité ! Un homme cherche son chemin parmi toutes les religions. Devant lui, il a deux guides. L'un est mort, l'autre est vivant. À qui croyez-vous qu'il a demandé son chemin ? Au mort ou à celui qui vit ? Il n'a pas hésité longtemps. Un athée discute avec un chrétien en lui disant « Vous vous rendez compte de votre Jésus ? Il est mort, il n'a même pas eu le temps de s'acheter une tombe. » À cela, le croyant lui répond « Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais il n'a pas voulu faire des dépenses et des frais inutiles parce qu'il savait qu'il n'y resterait que 3 jours. » Et je conclue avec ceci, tous les fondateurs de toutes les religions ont ceci en commun, c'est qu'ils ont une tombe. Si vous allez voir le tombeau de Bouddha, on vous dit « Bouddha est mort, il est ici, il y a ses os. » Vous allez voir au tombeau de Mahomet à la Mecque, il est ici, il y a ses os, il est mort, Confucius. Mais quand vous allez voir Jésus, il n'y a plus d'os, il est vivant, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Et c'est ça notre foi. Parmi tous les tombeaux, l'un est vide, c'est celui de Jésus. Il est ressuscité, il a apparu à plus de 500 témoins. Quoi qu'il se passe, ces témoins ont, quelles que soient les persécutions violentes qu'ils ont vécues, ils ont donné leur vie pour ce témoignage que Jésus est mort, il est vivant, il est ressuscité. Et à tous ceux qui croient, peut-être que c'est un mensonge, une chimère, ou peut-être qu'ils doutent un peu, j'aimerais vous dire que tu peux faire cette expérience. Et si tu cherches un guide pour l'éternité, eh bien, saisis et choisis Jésus qui a vaincu la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin ? Les croyants se disaient, la première église, ils se disaient, Jésus est vraiment ressuscité. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, Jésus est vraiment ressuscité. Mec, c'est un truc de fou, c'est vrai, il est ressuscité. Tourne-toi vers ton voisin, peut-être qui est tout seul, et tu dis, c'est valable pour toi, je t'assure, il est ressuscité. C'est vrai, il est ressuscité. Mon Dieu, c'est vrai. C'est vrai, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et il nous fait porteurs de cette nouvelle. Les amis, vous êtes invités, partout où vous allez, à dire Jésus ressuscité. Je ne prie pas un Dieu qui est mort, je prie un Dieu qui est vivant. Tu as besoin qu'on prie pour toi ? Viens, on prie pour toi. Tu sais, tu peux faire cette expérience même avec Jésus. Et je peux prier pour toi maintenant si tu veux, comme tu es, n'importe où, à la station d'essence, pendant que les gens payent 2,50 €. Viens, je prie pour toi, que Dieu te donne un petit peu plus de... qui multiplie le litre d'essence. Jésus est ressuscité.